SBS Radio.
Bonjour à tous. Dans l'actualité de ce jeudi 25 avril, c'est donc l'Anzac Day en Australie et en Nouvelle-Zélande. En Russie, Vladimir Poutine et Kim Jong-un se rencontrent pour la première fois aujourd'hui. Et en France, l'immense acteur Jean-Pierre Mariel est mort mercredi soir à l'âge de 87 ans.
Le journal donc de ce jeudi 25 avril 2019 avec Grégory Pless.
Les Australiens et les Néo-Zélandais se sont levés aux aurores ce matin pour rendre hommage à leurs anciens combattants à l'occasion de l'Anzac Day. Aujourd'hui, c'est le 104e anniversaire du débarquement des troupes néo-zélandaises et australiennes à Gallipoli, en Turquie, pendant la Première Guerre mondiale. Une journée de commémoration en hommage à tous les anciens combattants de ces deux pays qui ont combattu et péri au cours des guerres, la première comme toutes les autres. Une foule massive s'est rassemblée ce matin sur la Gold Coast, où les cendres de 33 vétérans de guerre ont été dispersées dans l'océan par des sauveteurs en mer. Et à Sydney, c'est le major général de l'armée Greg Bilton qui a pris la parole et il a comparé ces jeunes soldats qui se sont battus en 1915 avec ceux d'aujourd'hui qui sont venus leur rendre hommage.
It is both reassuring and significant that here and in thousands of places across this country, groups of Australians have chosen to gather in the dark, noiselessly, just as those young men did. People from all walks of life have risen early to gather with their fellow Australians and to pause in order to pay tribute to the actions and acknowledge the sacrifices of those who have fought for the freedoms we all enjoy.
Un peu plus à l'est de l'Australie, en Nouvelle-Zélande, c'est la première ministre Jacinda Ardern qui a également rendu hommage aux anciens combattants. Elle a pris la parole lors d'une cérémonie qui se déroulait à Auckland pour adresser un message de fraternité et de retour aux valeurs fondamentales. On l'écoute.
It reminds us of our shared humanity, something we've been reminded of again in the wake of the 15th of March. And so, as we come together on this day to remember, to commemorate, to give thanks to others, let us also recommit. Let us recommit to those simple values of freedom, democracy and peace. Just as if we have never taken for granted the loss of life by those who served on our behalf, so too must we never take for granted these principles.
Et direction maintenant Gallipoli en Turquie où la cérémonie de l'Anzac Day aura bien lieu et ce malgré l'arrestation d'un homme soupçonné d'être un terroriste membre de l'État islamique qui prévoyait de commettre un attentat pendant la commémoration. Le suspect est un homme syrien de 25 ans et il a été placé en détention par les autorités turques. Alors pour rappel, chaque année, des milliers d'Australiens et de Néo-Zélandais participent à cette cérémonie de Gallipoli et cette année, ce sera également le cas du chef des forces de défense australiennes, Angus Campbell. Brendan Nelson, qui est lui le directeur de l'Australian War Memorial, a pour sa part conseillé sur la chaîne Sky News au public de ne pas céder à la panique et de ne pas tenir compte de ces menaces extrémistes.
Unfortunately, we live in a world where there are people, wherever they live, whatever their background, whatever their beliefs, who are fundamentalists who are intent on disrupting what we do. The most important thing we can do is go about living our lives.
Au Sri Lanka, le gouvernement a annoncé avoir identifié 8 des 9 terroristes responsables des attaques du dimanche de Pâques, au cours desquelles 359 personnes sont mortes. Selon les autorités, les auteurs de ce massacre étaient issus de familles très aisées. Certains avaient même étudié à l'étranger. Les précisions de Sébastien Farsi de RFI.
La communauté musulmane du Sri Lanka est très ancienne. Ses premières implantations sur l'île remontent au 7e siècle. Ces musulmans sont aujourd'hui particulièrement prospères, comme le montre le profil des familles des terroristes. Ils ne souffrent donc pas, comme dans l'Inde voisine, d'une marginalisation économique ou sociale qui pourrait les inciter à se révolter violemment. Les seules tensions récentes ont d'ailleurs eu lieu avec la majorité bouddhiste et non avec les chrétiens. Pakiyosoti Saravamattu, directeur du think tank le Center for Policy Alternatives parle donc d'une idéologie terroriste importée.
Il y a eu plusieurs attaques en 2018 de bouddhistes extrémistes contre des musulmans. Et on aurait pu penser que si des musulmans allaient attaquer un groupe, cela aurait été les bouddhistes cingalais. Pourquoi est-ce qu'ils attaqueraient des chrétiens ? Dans l'histoire du Sri Lanka, il n'y a jamais eu de violence entre les chrétiens et les musulmans.
Des organisations musulmanes modérées avaient d'ailleurs alerté les autorités de la montée de groupes extrémistes comme le National Tawhid Jamaat qui aurait perpétré ces attentats. Mais aucune action n'a été prise et aujourd'hui ces musulmans craignent d'être assimilés aux terroristes. Sébastien Farcy, Colombo, RFI.
On prend maintenant la direction de Vladivostok en Russie, où doit avoir lieu ce jeudi la première rencontre entre le président russe Vladimir Poutine et son homologue nord-coréen Kim Jong-un. Le chef d'État de Pyongyang vient en fait chercher aux confins de la Russie un allié sur la scène internationale, alors que les négociations avec Washington sont au point mort. Il espère également trouver une solution pour les 11 000 nord-coréens qui travaillent en Russie, mais que Moscou prévoit d'expulser d'ici la fin de l'année. Daniel Vallot de RFI nous explique les enjeux de cette rencontre inédite.
Officiellement, ce sont un peu plus de 11 000 travailleurs nord-coréens qui se trouvent actuellement sur le territoire russe. Très prisés par les entreprises russes du bâtiment, mais aussi dans le secteur minier et forestier, ces travailleurs nord-coréens sont considérés comme une main-d'œuvre bon marché, acceptant des horaires et des conditions de travail souvent très difficiles. Dans un rapport datant de 2017, Human Rights Watch dénonçait d'ailleurs ces conditions de travail. L'ONG dénonçait également l'obligation pour ces travailleurs de reverser la quasi-totalité de leur salaire au régime de Pyongyang. Car ces travailleurs émigrés, employés principalement en Chine et en Russie, sont devenus ces dernières années l'une des principales sources de devises pour un pays qui en manque cruellement. En décembre 2017, en acceptant de voter les sanctions contre la Corée du Nord, la Russie s'est engagée à expulser dans les deux années l'ensemble de ses travailleurs. Pyongyang aimerait que cette échéance soit repoussée et Moscou pourrait s'y montrer favorable. La Russie estime en effet nécessaire d'assouplir ses sanctions pour encourager la Corée du Nord à se défaire de l'arme nucléaire. Daniel Vallot, Moscou, RFI.
En France, le président Emmanuel Macron doit s'exprimer ce jeudi soir et annoncer diverses mesures issues du grand débat avec les Français. Mais pas sûr que ces annonces apaisent la colère des Français qui manifestent tous les samedis depuis la fin de l'année dernière. C'est en tout cas l'avis de Christine, une membre de la première heure du mouvement des Gilets jaunes. À nos confrères de RFI, elle confie ne plus rien attendre du président de la République.
Il n'y a pas d'attente, aucune. Ça va avoir peut-être un impact sur les personnes qui regardent, qui ne rejoignent pas, les personnes qui sont dans leur canapé, les personnes qui prennent de plein fouet l'impact et la manipulation médiatique, mais les personnes qui sont vraiment dans la lutte avec la conscience ouverte, ces personnes-là n'en attendent rien. Ce sera vraiment encore une parole de plus, parce que même les axes qui ont été donc fuités ces derniers temps, si c'est bien les axes qu'il prend et ce qu'il va expliquer, ce ne sont pas les bons.
Quoi qu'ils disent, le mouvement continuera ?
Ah oui. Là, il faut une vraie remise à plat. Je pense qu'il faudrait qu'à un moment donné, il y ait un signal fort de dire « Ok, on a bien compris, en haut, il y a toute une petite frange qui se gave, il faut qu'on arrive à restructurer ça pour que ça revienne en bas. Personne ne demande l'aumône. » Or, ces annonces-là sont encore des annonces de dons. Il faut un signal de positionnement, une philosophie politique.
Et on reste en France puisque donc la rue est en colère, mais le cinéma, lui, est en deuil puisqu'on a appris il y a quelques heures le décès de l'acteur Jean-Pierre Marielle à l'âge de 87 ans. Il avait une voix reconnaissable entre toutes et surtout une gouaille vraiment inimitable. Jean-Pierre Marielle a joué dans plus d'une centaine de films auprès des plus grands metteurs en scène comme Claude Sautet, Bertrand Blier ou encore Jacques Audiard. Mais c'est au théâtre que sa carrière a commencé il y a déjà plusieurs décennies. C'est ce qu'il raconte au micro du non moins mythique Michel Drucker lors d'une interview réalisée en 1976.
Pendant très longtemps, et même à un moment, j'ai fait du théâtre et du cinéma, mais vous savez, on a commencé tout un groupe de comédiens, on a commencé dans des petits théâtres de la rive gauche qui s'apparentaient un peu à ce que sont les cafés-théâtres maintenant. On jouait dans des théâtres qui ont disparu, qui s'appelaient le Babylone, le Noctambule, le théâtre du quartier latin, la Huchette qui existe toujours. et on jouait des pièces de Ionesco, de Brecht, de Beckett, enfin tout ça, c'était... Mais à cette époque, les metteurs en scène dits de cinéma ne s'intéressaient absolument pas aux acteurs. Ils considéraient que les acteurs de théâtre étaient des braillards, des gens qui n'avaient rien à voir à faire devant une caméra plutôt. Et on a été ignorés pendant des années. Alors on a fait du théâtre, mais c'était très très bien. Et puis petit à petit, on a commencé à jouer des petits rôles au cinéma, dans des films plus ou moins bien. Et puis ça, c'est venu comme ça, avec le temps.
Un petit mot de sport maintenant, et plus particulièrement de cycliste. Alaphilippe a triomphé à la Flèche Wallonne. Encore une victoire pour Julien Alaphilippe au Mur de Huy. Le Français était talonné de près par Jacob Vuxlang. La saison phénoménale de Julien Alaphilippe s'est poursuivie ce mercredi en Belgique, où le cycliste de 26 ans a gagné la Flèche Wallonne. Une course à rajouter à son palmarès déjà impressionnant, qui compte Milano Sanremo, la Strade Bianche, ainsi que des étapes dans la Vuelta à San Juan, le Tour Colombia, Tirreno Adriatico et aussi la Vuelta al País Vasco. On écoute ce qu'il dit sur sa victoire sur SBS Cycling.
Julien Alaphilippe looking to back up his victory last year. Fuglsang trying to come back. Alaphilippe going for the victory now for De Koenig Quickstep. Fuglsang is trying to come back at him. Alaphilippe closes the door. It's a back-to-back win for Alaphilippe. Fuglsang in second place. Ulisi in third.
Voilà, donc on reviendra plus en détail avec le magazine des sports pour une présentation complète des résultats sportifs de ces derniers temps avec Christophe Mallet. Ce sera juste après le journal. Sur la météo maintenant de ce jeudi 25 avril, il fait grand soleil à Perth avec 29 degrés. C'est partiellement nuageux à Adélaïde avec 21 degrés et aussi à Melbourne où on a 1 degré plus, 22. Quelques pluies légères possibles en fin d'après-midi à Hobart avec 18 degrés, des nuages à Canberra 23 degrés, du soleil en revanche à Sydney et Wollongong avec respectivement 25 et 23 degrés. Il fait très beau à Newcastle avec 28 degrés. Partiellement nuageux à Brisbane avec 27 degrés. Des risques de pluie en revanche à Cairns avec 30 degrés. Et c'est plutôt ensoleillé à Darwin avec 35 degrés.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.